Vous écoutez
du Trizac.
Cube Radio.
On va revenir sur cet article paru dans le journal aujourd'hui parce qu'on voit que ça va pas bien dans les urgences du Québec. On parle de problèmes d'organisation du travail, pénurie de personnel, mauvaise gestion des congés. Puis on a avec nous la présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec, Dr. Judy Morris. Dr. Morris, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, la question est simple. Comme patient, là, potentiel, là, puis je voudrais qu'on parle des patients, là, pas juste des médecins. Qu'est-ce qui marche pas dans les urgences?
Ben, en fait, je proposerais un autre titre, c'est les pires hôpitaux. Parce que quand on lit l'article, là, qui est fort intéressant, qui apporte beaucoup d'informations à la population, on regarde les problèmes, là, notés. Ce sont souvent des problèmes qui sont extra-urgences. L'urgence, c'est le symptôme. Quand ça déborde aux urgences, c'est parce que ça va pas bien dans le reste de l'hôpital. C'est parce qu'il n'y a pas de lit à l'hôpital. C'est parce que les accès aux chirurgies, aux plateaux techniques, aux cliniques externes, aux tournées des consultants ne se fait pas de façon optimale. Puis souvent, c'est l'urgence qui est le premier à en écoper de ces failles-là, disons, dans le reste de l'hôpital, dans le reste du système.
Mais en même temps, là, Dr. Maurice, il n'y a pas de clinique ouverte. Là. Puis tu appelles le 811 là, pour consulter quelqu'un pour éviter d'aller à l'urgence, puis on finit toujours par vous dire, vous êtes mieux d'aller à l'urgence. Fait qu'il y a un problème d'organisation du travail, là, d'utiliser les ressources qui sont là.
Ben, c'est sûr. Ça fait partie d'une des choses. Il y a beaucoup de souvent, on se retrouve à être la seule porte d'entrée du système pour les gens qui ne savent pas où aller. Fait que ça, c'est certain que il y a un travail à faire pour l'accès aux soins. Ça contribue aux patients qui sont chez nous. Mais souvent, quand on parle des urgences, des taux d'occupation surauxiliaire, des délais, c'est parce que ça roule pas aussi bien. Disons, c'est pas optimal. Il y a l'urgence, mais souvent dans le reste de l'hôpital.
Okay, non, mais qui décide, ouais. Dr. Morris, comment fonctionnent les urgences au Québec? Là? C'est qui le prix Nobel, quelque part, qui voit pas que ça marche pas, qu'on attend 19h, 20h, ouais. Que nos impôts sont au plafond, puis on s'attend à du service en retour, puis on n'en a pas?
Ouais. C'est certain que la crise de personnel a fait mal. Puis ça, souvent, en fait, un des gros problèmes, je crois, quand il y a des problèmes comme ça sur le terrain, c'est qu'ils se rendent pas en haut. Ils se rendent pas dans les oreilles au ministère, au directeur d'hôpitaux. Souvent, ils vont regarder des chiffres. Ah, c'est pas pire. On a un petit peu d'attente. Ah, ça déborde. Mais souvent, les gens sur le terrain, comme nous à l'urgence, ça fait longtemps qu'on crie que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Ça fait longtemps qu'on dit que ça prend des solutions. Donc, il faut que ça monte en haut. Donc, c'est bien cet exercice-là d'équipe staff qui a été fait parce que ça met en lumière, ils sont où les problèmes? Ouais. Où est-ce qu'on doit cibler les solutions? Mais ultimement, c'est ça, les décisions, elles viennent de très haut.
OK, je reviens sur votre réponse, Dr. Maurice. Là, vous dites, parce que c'est vous qui êtes copié là, sur le terrain.
Oui.
C'est à vous autres qu'on dit, hey, j'en ai plein le cul d'attendre. Là. Puis là, mon enfant a mal, puis il n'y a personne, puis l'infirmière vient pas, puis le médecin, il n'y a pas de médecin la nuit, puis vous êtes tous partis en voilier ou en ski, puis vous n'êtes jamais là. Mais quand vous dites, là, ça ne se rend pas en haut, là, dites-moi donc, c'est qui, c'est quoi en haut? On peut-tu avoir des noms, des titres? Tu sais, où est-ce que c'est en haut? C'est qui en haut?
Ben, en fait, c'est pas toujours de la mauvaise volonté, là, mais souvent les directeurs généraux d'hôpitaux, ils ont des gros bateaux, des établissements énormes à gérer. Puis ben, il y a la salle d'opération qui a ses défis, puis les soins intensifs qui ont leurs défis, puis nous, l'urgence, ben, on a nos défis quotidiens. Fait que, c'est d'en parler de ces trucs-là. Puis on en a fait des représentations à l'AMUC avec d'autres groupes des urgences auprès du ministre. Puis il a entendu nos demandes, il a entendu les problèmes qui étaient sur le terrain, puis certaines des solutions qui ont été mises en place, entre autres pour la crise du personnel, qui était du jamais vu, qu'on est en train de vivre. Ça fait mal là, à tous les niveaux dans les hôpitaux.
Vous parlez vous parlez pas juste des médecins, là, vous parlez des infirmières?
Oui, infirmières, inhalo, préposés, c'est du personnel dont on dépend, puis ça fait mal. Puis quand on voit des temps d'attente, des choses qui vont moins bien dans les urgences et ailleurs dans les établissements de soins, ça fait mal énormément.
Dites-moi là une chose. Puis là, on s'attend à rien de plus de Christian Dubé qu'on a obtenu des autres ministres de la Santé. Là. Il fera pas de miracle, lui, non plus.
On a beaucoup d'espoir. C'est sûr que s'il y a des outils qui peuvent être débloqués, des choses, des décisions qui peuvent être prises, ça va venir de lui.
Je comprends, mais
qu'il mette en place.
Mais vous avez vécu la centralisation de Gaëtan Barrette, là. Ça a-tu aidé, ça a pas, ou ça a nui?
Oh, c'est bien difficile, c'est une grosse question tout ça. Il y a des pour et des contre à chaque chose qui est mise en place. T'sais, pour certains processus, ça a peut-être permis de mettre des processus similaires à certains endroits, mais pour d'autres choses, ben c'est sûr que ça peut avoir des impacts négatifs.
Hey, je vous écoute, Dr. Maurice, là, puis je banalise pas votre travail, rien de ça, là, j'oserais jamais, là. Mais je me dis, on n'a pas la réponse à la question qu'est-ce qui marche pas dans les urgences, là. On n'arrive pas à l'identifier, là. Il y a personne qui a l'air d'avoir le pouvoir pour dire voici comment on va corriger la situation.
Ben, il y a une solution, c'est l'imputabilité puis le respect des délais. Ben, des gens qui sont aux directions de centres hospitaliers et du ministère, ultimement. Si on dit un patient, ça devrait pas rester plus que 24 heures à l'urgence, ben, il faut que quelqu'un soit responsable de ça. Ces chiffres-là, un peu comme le temps supplémentaire obligatoire des infirmières, on se désensibilise au fil du temps. Il faut que ce soit des objectifs qui soient répétés, qui soient respectés par les intervenants, par les établissements, puis par le ministère, en disant ça, c'est pas acceptable de laisser un patient dans un corridor pendant 48 heures. Il va falloir qu'on mette en place.
Mais tout le monde l'a dit.
Il va falloir que les gens soient capables de répondre.
Mais tout le monde l'a dit. Il va falloir que puis on devrait oui. puis on a, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit. Puis c'est comme la météo. Il n'y a rien qui se fait. Tu peux rien faire. C'est comme ça, puis ça change. En passant, vous, les médecins, là, à l'urgence, Dr. Oui. Maurice, est-ce que vous devez faire du temps supplémentaire obligatoire?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, les équipes médicales sont un petit peu plus stables, mais par contre, il y a des grosses pénuries, souvent en région plus en région rurale, en région plus éloignée, où il y a des demandes de dépannage là médical qui ont augmenté, où il y a des endroits où qui sont à risque ou de découverture médicale, un peu comme avec le personnel infirmier, plus dans les régions rurales là, qui sont touchées ces temps-ci. Mais pour l'instant, non, mais souvent c'est une réorganisation du travail où les gens vont dire ben je vais faire encore plus long ou je vais rester ou mais ça adapte quelques cas dans le passé où ça a dû survenir.
Mais comment vous trouvez ça là? Moi le temps supplémentaire obligatoire chez les infirmières là, mais on l'applique pas aux médecins. C'est comme deux poids deux mesures là. Les infirmières sont moins fortes pour négocier, sont moins puissantes que les médecins. Puis vous autres les médecins vous dites il est hors de question que je fasse du temps supplémentaire obligatoire.
Ben, je vous dirais que par contre, il est rare qu'une urgence soit découverte. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a une réorganisation qui arriverait. Si demain matin, on n'avait pas de découverte, il y a une réorganisation qui arriverait. Puis
attendez,
il y aurait une couverture qui serait
faite. Quand découverte, Dr. Maurice, quand on attend 19h, 16h, oui. Tu sais, 20h dans une urgence, venez pas me dire que c'en est un bris de service, là. C'est découvert, là. Il n'y en a pas de service. Il n'y en a pas de médecin à l'horizon.
Mais je vais vous donner un exemple. Le problème, là, c'est qu'on peut bien rajouter des médecins, mais si on manque de commis, si on manque de préposés, si on manque de personnel infirmier, on peut pas tout faire. Puis ça, c'est souvent une affaire. Les gens disent, oh, ben, on peut bien rajouter des médecins sur la liste de garde, mais le goulot d'étranglement, souvent, il arrive à la personne qui fait les papiers, puis l'administration. Le système de santé là, bénéficierait, puis ça vaut aussi pour la première ligne, quand on parle des médecins de famille. Souvent, ces gens-là, ces médecins-là, ils manquent de ressources. Il y a des endroits dans le reste du Canada, aux États-Unis, où ils ont des trucs qu'ils appellent les patient navigators. Fait que c'est des gens qui servent là pour aider le travail du médecin, pour optimiser le roulement. On n'a pas ça ici, mais c'est notre personnel de support souvent qui manque pour faire rouler une urgence. On va avoir plus de patients, mais donnez-nous les ressources appropriées. Mais, c'est souvent ça le problème.
Mais là, vous avez eu des ressources, vous avez eu des augmentations de salaire. On ne viendra pas là-dessus avec Gaétan Barret, Philippe Couillard. Là, on s'est dit, là, on va mieux payer les médecins. Ils vont être comparables aux médecins à travers le Canada. Puis on attend autant à l'urgence, sinon pire. Fait que c'est quoi la solution?
Il y a une grosse partie de la solution dans les urgences, dans tout le système, dans le réseau, c'est d'avoir du personnel de support en plus grande quantité, du personnel infirmier. On le voit, la pénurie de personnel, là, elle fait mal à tout le reste.
Oui, mais tous ces gens-là, là, ils nous voient qu'on va à l'urgence. Là. Il y a un triage qui se fait. Et là, tout à coup, on attend 10 heures après un médecin. Tu sais, à un moment donné, là, mettez-en 2-3 médecins. Puis nous autres, on est tannés d'attendre après vous autres, là. Tu sais, vous êtes pas des demi-dieux, là. Vous êtes là.
Mais moi, je vais faire une prescription. Je vais dire, ce patient-là a besoin d'un rayon X. Des fois, il y a des délais de 3 heures ou de 5 heures avant d'attendre l'imagerie ou pour avoir quelqu'un qui soit capable de prendre les prises de sang pour le patient. Fait que c'est aussi ça qu'il faut tenir en compte. Fait que c'est toute la machine qui roule pas de façon optimale quand on attend des fois.
Y a-tu un autre problème, Dr Maurice? Moi, je l'ai vécu personnellement là avec ma fille. Là, on va à l'urgence. Est-ce que c'est obligatoire de voir l'urgentologue? Parce qu'elle avait un problème à l'œil, elle avait une ordonnance, puis on a attendu 5 heures pour que l'urgentologue dise, ben allez voir un ophtalmologue. On est monté à l'étage, l'ophtalmologue a dit, j'aurais pu venir il y a 4 heures, j'étais ici, là, je faisais rien. Mais là, fallait que l'urgentologue prenne sa cote, puis qu'il ait sa castonguette pour être payé davantage pour que je voie un autre médecin plus tard. Il y a ça comme problème aussi, non?
Moi, je vous dirais que quand on a des salles d'attente pleines puis des délais d'attente de 8-10 heures, là, je serais bien contente qu'il y ait un mécanisme pour que ces patients-là aient accès aux consultants rapidement sans avoir à me voir. Ça, c'est une chose des plus fâchantes pour nous.
OK. Non, mais ma question était plus simple que ça, Dr. Morin. Est-ce que c'est obligatoire de voir un urgentologue quand on va à l'urgence? Est-ce qu'on pourrait pas être...
Non, pas toujours. Il y a des protocoles mis sur place. Des fois, on a dans beaucoup d'urgences, des protocoles de réorientation où on a des critères bien établis. En fait, ce qu'on veut pas, c'est qu'un patient tombe entre les mailles du filet puis qu'il y a, genre un infarctus puis qu'on le laisse partir à la maison. Fait qu'on faut avoir des critères stricts pour être sécuritaire. Mais on en a. On a des programmes de réorientation qui sont mis en place à travers le Québec. Si on a des pathologies qui peuvent être vues dans une autre clinique, on le fait. Ouais. Mais l'accès, des fois, à certaines cliniques spécialisées, moi, il n'y a rien qui me fâche plus qu'un médecin qui a fait son travail, un médecin de famille qui réfère quelqu'un à l'urgence pour voir un spécialiste, puis que moi, je suis obligée de le voir parce que des fois, le spécialiste, ils sont très occupés ou d'autres choses. Puis, des fois, ces plateaux-là, c'est difficile.
C'est parce que, tu sais, moi, là, Dr Maurice, moi, là, je vous entends, là, puis je sais que votre job est pas simple, mais en même temps, là, il y a des fois, le corporatisme est trop fort chez vous, puis vous êtes pas capable de dire, il y a des spécialistes qui travaillent pas assez, il y a des spécialistes qui vont au privé, alors qu'on a, nous, collectivement, payé pour leur formation. Puis dans l'article aujourd'hui, on dit des spécialistes préfèrent faire les consultations à l'urgence plutôt qu'un rendez-vous en externe. Mais ça aide pas, là, l'urgence. Fait qu'à un moment donné, est-ce qu'il y a une remise en question qui se fait chez vous, les médecins et les spécialistes?
Ben, il faut qu'il y en ait une. On se rend compte qu'il y a des pertes de temps, des pertes de ressources, où le patient, des fois, se retrouve pas au bon endroit, au bon moment. Puis effectivement, il y a des processus à améliorer pour que les gens se retrouvent au bon endroit, reçoivent les bons soins, puis certainement pas dans le réseau actuel devoir dédoubler puis voir deux docteurs pour avoir accès à un troisième docteur.
Alors, qu'est-ce qu'on fait en conclusion, Dr Maurice? Là, on le voit, là, tu sais, des délais, dans l'article, c'est intéressant, des délais de 18 à 24 mois pour une consultation en psychologie, oui. La mauvaise gestion de personnel, la mauvaise gestion des congés, des problèmes de pénurie de main d'œuvre, les infirmières, il y en a à moitié qui manquent à Charlemagne. Avec ça, là, qu'est-ce que vous allez faire?
On utilise ces rapports-là comme des outils parce que ça nous donne une information super importante. Mais la prochaine étape, c'est de mettre de la pression pour que ces solutions-là, ces problèmes-là, soient réglés. Parce que moi, on me dit que des fois sur le plancher, est-ce que c'est dans les priorités? Est-ce que les hôpitaux, les directions d'hôpital vont faire un suivi de ces rapports-là? Il va falloir qu'il y ait un suivi, puis il va falloir qu'il y ait un suivi dans le temps pour savoir si ces choses-là se sont améliorées.
OK. On va conclure autrement, Dr Maurice. Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie? Est-ce qu'il y a trop de monde assis à surveiller les autres, puis pas assez sur le terrain?
Je peux pas répondre à cette question-là, mais c'est certain que le feedback du terrain, il est essentiel. Mm-hmm. Il faut que ça continue. Parce que ça, là, ce rapport-là, ça donne des informations réelles. Ils sont où les problèmes? Au lieu de regarder un tableau avec des beaux chiffres, de dire, des fois c'est pire, des fois c'est moins pire, mm-hmm. Là, on les a, les problèmes. Puis je rappelle, là, tu sais, nous, souvent, à l'urgence, là, les ambulances, elles rentrent, on est obligé de les accueillir, les patients, puis les gérer. Puis mm-hmm. Nous, on est obligé de mettre à jour nos processus puis de les optimiser. Mais c'est souvent dans le reste de l'établissement que cette optimisation-là puis cette urgence-là, elle ne suit pas. Fait que ça, ce rapport-là, il nous aide en ce sens-là.
Donc, c'est les directions d'établissement qui devraient répondre aux questions?
Bien, c'est sûr que c'est eux souvent qui ont les solutions et ils ont les sous puis les budgets pour prendre des actions. Quand on regarde, on manque un travailleur social sur les heures, des fois, c'est dans les fins de semaine, il n'y a pas de couverture de travailleur social.
Ah, oui.
Et quand on a des patients avec des problématiques sociales, des fois, on va attendre au lundi que la personne attitrée pour essayer de trouver une ressource au patient puisse s'en occuper. Mais là, c'est 48 heures sur une
OK, donc, je me trompe pas, là, je veux vraiment finir l'entrevue, là, Dr. Maurice, mais là, oui. Si Christian Dubé disait demain matin, les directions d'établissements de santé sont redevables et responsables et doivent répondre de la qualité des soins puis de la performance aussi des soins, est-ce que là, les choses changeraient?
Ben, c'est un pas dans la bonne direction.
Puis on pourrait les sacrer dehors s'ils sont pas bons.
Ah ben ça, c'est à M. Dubé de décider, mais certainement que ça prend quelqu'un de responsable.
OK. Ce qui manque dans le système.
Souvent, on tombe sur les urgences, puis plein de solutions et de ressources, elles ne sont pas sous notre pouvoir décisionnel aux urgences.
Je comprends. Bon, ben, on aura fait un pas dans la compréhension du problème. Dr. Judy Morris, qui est présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
Merci.
Bonne chance.
Oui, merci.
Salut.